Voix Nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Evelyne Ayer, professeure en anthropologie génétique.
Deuxième épisode, notre culture change nos gènes. Bonsoir Evelyne Ayer.
Bonsoir.
Hier, vous nous disiez que l'anthropogénétique se fondait sur un ensemble de disciplines, alors qui vont de l'ethnologie à la génétique, bien sûr, en passant par la linguistique, l'archéologie, l'histoire et d'autres, et que dans votre thèse, vous aviez démontré que la culture peut influer sur l'évolution. C'est même devenu le fil conducteur de votre recherche, et c'est sans doute ce que nous allons voir au cours de cet épisode, mais nous allons le voir à travers vos études de terrain, et la façon dont vous avez et dont vous continuez de travailler avec vos équipes. Parce que au cours des 10 ou 15 dernières années, Evelyne Ayer, vous avez foulé des déserts et des steppes, arpenté des montagnes aux sentiers grillés par le soleil. Vous êtes parti en quelque sorte très loin de votre bureau parisien et de votre laboratoire du CNRS. Vos recherches vous ont mené de l'Asie centrale à la Sibérie en passant par l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que vous aviez envie de refaire le parcours de Sapiens à l'envers ?
C'est drôle comme question. J'avais jamais vu ça comme ça. Non, en fait, j'ai monté en parallèle deux terrains. Voilà. Donc, je me suis surtout allée en Asie centrale et
dans tous les pays en ce temps.
C'est ça, c'est ça. J'ai fait tous les pays en ce temps. Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan. Je ne suis pas allée au Turkménistan, qui est dans le top 10 des dictatures, la deuxième, juste après la Corée du Nord. Et bon, c'était un peu trop compliqué pour aller travailler là-bas. Et alors, pourquoi je suis allée travailler là-bas ? Parce que, voilà, donc j'avais travaillé sur le Canada, des villages dans le Haut-Jura. Et en fait, cette idée de culture et de génétique avait été travaillée par un grand chercheur italien qui s'appelait Luca Cavalli Sforza. Et qui montrait que des fois, on a une espèce, ça colle. C'est-à-dire que les gens qui se ressemblent génétiquement parlent des langues qui se ressemblent. Et il y a eu un gros programme au CNRS, un appel d'offres pour explorer cette question-là. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de voir ça un peu plus dans le détail et de trouver une zone du monde où des populations qui parlent des langues différentes se côtoient et de voir si effectivement, quand on parle la même langue, on se ressemble plus génétiquement que quand on parle des langues différentes. Et donc, il y a différents endroits dans le monde où on peut analyser ça. Et il se trouve que l'Asie centrale est un de ces endroits-là. Et il se trouve que moi, l'Asie centrale, Samarcande. Voilà, Samarcande. Ça m'a fait rêver. La route de la soie, ça m'a toujours fait rêver. Je sais pas d'où ça vient depuis que j'étais enfant, mais je sais pas. Moi, Samarcande, voilà, ça me fait briller les yeux, etc. Oh, ben, je me suis dit, génial! Une question scientifique super intéressante dans un endroit où j'ai toujours rêvé d'aller. Et donc, j'ai décidé que ce serait bien de monter ça et j'ai rencontré un linguiste qui travaillait sur ces régions du monde et qui était marié avec, à ce moment-là, avec une ethnologue qui travaillait aussi sur ces régions du monde. Et donc, on s'est dit, on va monter un projet ensemble. Et donc, je suis allée à Tashkent, en Ouzbékistan, je m'en souviens très bien, c'était un Noël, donc chez ses collègues, et je me dis, bon, eux, ils vont faire la linguistique et l'ethnologie, maintenant, sur place, la génétique, faut que je trouve quelqu'un avec qui travailler, parce que la génétique, ça veut dire qu'on prélève à ce moment-là du sang, quoi, chez les gens.
Ou de la salive ?
Pas encore.
Pas encore, c'était d'abord du sang.
Pas encore. C'était à cette époque-là, il y avait vraiment que les protocoles avec le prélèvement sanguin. Donc, vous n'arrivez pas chez des gens en disant « Ouh, est-ce que tu peux me donner un peu de sang, quoi ?» Donc, il faut monter quand même un projet, il faut avoir les autorisations, etc. Et donc, j'ai fouillé dans les bases de données bibliographiques et j'ai trouvé qu'il y avait un chercheur de l'Académie des sciences de Tashkent, Ruslan Ruzibakiev, qui avait déjà publié sur de l'ADN dans ces populations. Ils travaillaient sur ce qu'on appelle le système HLA, c'est-à-dire les systèmes, vous savez, qui sont importants pour les greffes, où il faut avoir le même HLA Donc
non,
lui,
ouais, d'accord.
C'est de la, une partie de la diversité génétique qui travaillait là-dessus. Et donc j'y suis allée, mais j'y suis allée franco, c'est-à-dire je suis allée sonner en bas de son bureau, quoi. Et il y avait une espèce de secrétaire. Heureusement, j'étais avec un ami qui parlait un peu russe, qui a dit que je voulais le rencontrer. Et donc je lui ai expliqué mon projet, et il a dit ah ouais, c'est super. Hein. Et il m'a présenté son étudiante en thèse à ce moment-là, qui s'appelle Tatiana Igaï, et avec qui après j'ai travaillé pendant 15 ou 20 ans et qui est devenue une très très grande amie. Et donc pour monter ce projet, il nous fallait les autorisations politiques. Donc on a rencontré différents ministres, différents chefs de l'académie, etc. Et qui nous ont dit, écoutez, on sort de l'ère soviétique. Ça fait des années...
On est au début des années 2000 quand vous commencez,
oui.
Hein.
On est au tout début des années 2000, donc je dirais les indépendances, je pense que c'est même en 99 que j'y suis allée, et les indépendances c'était en 91-92, et ils disent, écoutez, ça fait des décennies que sous le joug de l'URSS, on nous réinvente sans arrêt l'histoire. Donc on aimerait effectivement, par une approche qui vaut ce qu'elle vaut, hein, on peut avec la génétique raconter une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire, on aimerait effectivement avoir une meilleure connaissance de l'histoire de notre pays. Donc allez-y, on va vous aider.
Soutien des autorités locales.
Soutien des autorités locales. Et donc à partir du soutien des autorités locales très haut, à partir de là, vous avez une super lettre magique qui vous permet d'aller voir les autorités un peu en dessous, qui vous donne une autre lettre pour aller voir les autorités encore en dessous et encore en dessous et encore en dessous. C'est très administratif là-bas et à la fin, vous arrivez dans des villages. Et là, avec soit le maire, soit le responsable du dispensaire, vous pouvez mettre en place effectivement les projets, vous expliquez aux gens vos projets. Vous avez besoin de leur accord. C'est pas très difficile, ça. Les gens, en général, sont enthousiastes. Hein. Moi, je viens d'un petit village. Quand on arrive dans un village au fin fond de l'Asie centrale, ils sont contents parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, les gens sont très contents de venir nous voir.
Ils vous tendent leurs bras pour vous prélever du sang facilement.
Ah, oui. Parce qu'en plus, c'est une zone du monde où les gens ont l'habitude de faire des prises de sang. Donc, en tous les cas, en Asie centrale, ça posait pas de problème, ce qui n'était pas la même chose en Afrique centrale. Et donc après, sur place, on a l'accord des gens et donc on fait nos enquêtes à la fois linguistiques, ethnologiques et d'ADN.
Les relations ont toujours été aussi simples avec les autorités ?
Non, des fois, on a été testés.
Vous-même.
Oui, on a été testé avec un espèce de faux ethnologue qui nous avait été imposé et qui nous donnait des pamphlets d'indépendance tadjik au milieu de l'Ouzbékistan pour voir comment on allait réagir à ça. On a été testé à d'autres moments où on était vraiment suivi, style Tintin chez les Soviets, quoi, par des agents secrets qui nous suivaient. On marche dans un village, ils nous suivent, on est à pied dans le village et ils nous suivent avec une voiture. C'est la seule voiture de tout le village, tout feu éteint, et on les revoit le lendemain devant l'hôtel, mais c'est vrai, hein, avec l'imperméable derrière le journal. Enfin, c'est... Il y a eu des moments épiques, quoi. Non, mais c'était... Et bien, en tous les cas, on a finalement, quand même, au fur et à mesure des années, parce que c'est...
C'est une très longue mission, hein, d'une dizaine d'années, 10-15 ans.
Ouais, 10-15 ans.
À raison de 2-3 séjours par an.
Oui, tout à fait. Donc
assez long à chaque fois.
Assez long. Et bon, finalement, les autorités ont vu qu'on n'était pas des éléments subversifs, ont fini par nous faire confiance, à tel point qu'à un moment, quand les frontières se sont plus refermées, il y a eu des années où on était finalement quasiment la seule équipe internationale à pouvoir travailler en Ouzbékistan. Hein. Et partant de l'Ouzbékistan, on est allé facilement au Kyrgyzstan, au Tadjikistan et alors au Kazakhstan, on devait y aller, mais en fait, on s'était mis d'accord avec une équipe italienne qui avait déjà des projets au Kazakhstan et c'est eux qui devaient travailler au Kazakhstan. Finalement, ils ne l'ont pas fait, on aurait mieux fait de le faire.
Alors, qu'est-ce que ça a donné, ces recherches sur le lien entre diversité génétique et langue évinéière ?
Eh ben, résultat assez vraiment très intéressant et inattendu. On est dans une zone du monde où, en fait, effectivement, les gens qui parlent les mêmes langues se ressemblent plus génétiquement, mais on est dans une zone du monde où, finalement, c'est vrai même à des distances géographiques surprenantes. Par exemple, quelqu'un va ressembler plus génétiquement à quelqu'un qui habite à 1000 km de là, mais qui parle la même langue, que à quelqu'un du village d'à côté.
Mais c'est fou.
Qui parle une langue différente. C'est-à-dire qu'on est dans une zone du monde. Alors, comment on fait pour que des populations se ressemblent génétiquement? Ben, il suffit que les gens se marient entre les populations, hein. Donc, on est dans une zone du monde où, en fait, les gens préfèrent se marier à 500 ou 1000 kilomètres de là avec quelqu'un qui parle la même langue que de se marier avec quelqu'un du village d'à côté. Qui parle une langue différente. Et je me souviens, à Astana, au Kazakhstan, je suis allée raconter ça à un colloque, et je vois encore la salle avec tous les Kazakhs, quand je présentais ça, qui hochaient de la tête, qui faisaient oui, 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 et après, en discutant avec eux, effectivement, quoi. Donc, on est vraiment dans un cas où, là, la culture détermine très fortement le choix des conjoints, c'est-à-dire avec qui on va se marier, et du coup détermine des petites différences génétiques entre ces populations humaines.
Donc oui, c'est un aller-retour entre la culture justement et l'évolution
et la génétique. Voilà, c'est la culture qui joue sur la génétique. Dans ce cas-là, c'est vraiment un exemple d'un choix culturel qui est vraiment le choix de se marier avec quelqu'un qui parle la même langue. C'est purement culturel. Et donc, le trait culturel, ça va être la langue qui va jouer sur la diversité génétique, sur les petites différences génétiques entre les populations humaines.
Est-ce que ce que vous avez constaté dans cette zone du monde où vous étiez, donc, et où vous êtes resté longtemps, Evelyne Ayer, se retrouve à d'autres endroits? Est-ce que, par exemple, ce lien entre la génétique et la langue explique aussi pourquoi les Basques parlent une langue sans aucun lien avec les autres langues européennes?
C'est le cas des Basques. Pareil, les Basques, ils ont ce qu'on appelle une endogamie, c'est-à-dire un choix de se marier à l'intérieur du groupe de même langue, parce que les Basques, ils parlent une langue qui est différente des autres langues parlées en Europe. Les autres langues parlées en Europe, on dit, c'est des langues indo-européennes, et la langue basque ne fait pas partie.
Elle est à part.
Voilà, elle est à part. Et donc, dans l'ADN, il y a des études pareilles qui ont montré qu'effectivement, ça leur crée une petite spécificité génétique qui est due au fait qu'ils se mélangent moins avec les populations autour que ce qu'on attendrait, et ça fait comme on appelle ça de l'endogamie, en fait, en fonction de la langue. Et chez les Basques, ce qui est de marrant, c'est que c'est même à l'intérieur des Basques. C'est-à-dire, on retrouve même ça à des échelles des sous-régions basques, si vous voulez. Ils se mélangent même pas trop entre sous-régions basques. Et c'est ça qui fait la petite spécificité génétique des Basques en Europe.
Vous disiez tout à l'heure, Evelyne Ayer, que vous aviez monté deux projets de recherche. Donc, il y avait ce projet de recherche sur diversité génétique et langue d'un côté. De l'autre côté, c'est un projet qui n'est pas en Asie centrale, qui est en Afrique centrale.
Oui. Alors là, en Afrique centrale, c'est un peu le même idée, c'est-à-dire qu'on a deux populations a priori différentes en termes de mode de vie qui coexistent, et c'était de voir quelle différence ça faisait d'un point de vue génétique. Et donc on a les populations qu'on dit plutôt chasseurs-cueilleurs, ceux que nous, Européens, on dénomme les pygmées, et à côté des populations dites d'agriculteurs. Et au départ, on avait cette idée d'essayer de comprendre, parce que là, on n'a pas de différence linguistique forte, c'est-à-dire que les populations de chasseurs-cueilleurs parlent les mêmes langues que leurs voisins d'à côté qui ne sont pas chasseurs-cueilleurs. Et du coup, là, c'était l'inverse, on voulait regarder si quand on parle la même langue, eh bien, il y a plus de mélange génétique que quand on parle des langues différentes. Et puis finalement, on n'est pas arrivé à aller jusqu'à cette échelle, cette finesse de données. On est arrivé surtout à comparer, je dirais, les populations dites chasseurs-cueilleurs entre elles par rapport au groupe de toutes les populations qui ne sont pas chasseurs-cueilleurs. Et on a vu leurs différences génétiques. Et là, ce qu'on a trouvé, c'est mon collègue Paul Verdu qui a fait ces travaux remarquables, on a pu voir que tous les groupes dits pygmées, ils ont une origine commune. Ils ont une origine commune, et ça, c'était pas, on le savait pas avant de le faire, parce que déjà les groupes pygmées, ils se connaissent pas entre eux. Donc vous avez plusieurs groupes à travers toute l'Afrique de l'Ouest, et qu'en fait cette origine commune, elle est assez récente. Et donc voilà, on a pu étudier ça, puis après comprendre comment ils s'étaient adaptés plutôt à un mode de vie chasseur-cueilleur en forêt. Donc après tout le déroulé d'autres études génétiques.
Deuxième sujet d'étude, après celui des langues, toujours dans le cadre de la façon dont nous nous adaptons à notre environnement, disons, vous avez monté un projet de recherche sur l'alimentation, c'est-à-dire sur l'adaptation des humains à différents régimes alimentaires. Donc vous avez analysé les différences génétiques qui sont liées à l'adaptation à l'alimentation.
Voilà.
Et ça, vous l'avez fait encore en Asie centrale, Ouzbékistan, Kyrgyzstan.
Oui, parce que alors en Asie centrale, en plus de parler des langues différentes, eh bien, il y a des populations qui ont des modes de vie différents. Il y a des populations qui sont plutôt des éleveurs nomades et d'autres plutôt des populations d'agriculteurs. Et donc, on a fait des enquêtes alimentaires. Globalement, en moyenne, ils mangent des choses différentes. Les éleveurs nomades, beaucoup plus de laitage et de produits issus de la viande. Et les agriculteurs, beaucoup plus de céréales et de fruits et légumes. Et donc, effectivement, notre idée, c'était de se dire, qu'est-ce que ça change d'un point de vue génétique? Est-ce que les gens, ils se sont habitués à ces différences d'alimentation? Et bien connue dans la littérature, il y a une différence fondamentale entre les populations humaines, c'est l'adaptation au fait de digérer le lait. En fait, normalement, comme on est des mammifères, les mammifères adultes ne digèrent pas le lait. Hein. C'est vraiment... Les vaches, elles boivent pas de lait, quoi. Les veaux, ils en boivent, mais pas les vaches. Et donc, c'est un état normal que, quand on est adulte, normalement, on digère pas le lait. Or, il se trouve que chez les humains, il y a des populations humaines où les adultes digèrent le lait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire digérer le lait, hein? Digérer le lait, ça veut dire qu'on transforme le sucre qu'il y a dans le lait, qui s'appelle le lactose, hein, facile, en petit sucre, le glucose et le galactose, qui est des petits sucres qui, après, on peut digérer. Okay? Le lactose, c'est une grosse molécule, donc on a du mal à la digérer. Et pour digérer ce lactose, hein, les sucres, c'est toujours en ose, on a besoin d'une enzyme. Les enzymes, c'est toujours en ase. Donc l'enzyme, c'est la lactase. Donc la lactase permet de digérer le lactose. Et donc, normalement, notre lactase, elle marche pas quand on est adulte. Mais il y a des populations humaines où il y a eu une petite mutation qui fait que la lactase fonctionne encore quand on est adulte. Et donc, on la connaît génétiquement. Il y a même des mutations différentes selon les populations. Il y a des mutations pour les populations en Afrique, pour les populations au Moyen-Orient, pour les populations en Europe.
Mais 80% de la population adulte en Europe digère...
L'Europe du Nord.
Le lactose, hein, ouais, en Europe du Nord.
Ouais, tout à fait.
Ah oui, en Europe du Sud, ça se perd un petit peu.
Oui,
ça descend
ça se perd
à 30%,
un peu.
Je crois.
Et alors en Chine, c'est quasiment zéro, quoi. Voilà. Et donc nous, quand on commence en Asie centrale, au moment où on a monté nos projets en Asie centrale, il n'y avait aucune donnée sur la diversité des populations humaines génétiques en Asie centrale. On se dit, c'est génial, on a des éleveurs nomades et on a des agriculteurs. Oui, parce que j'ai pas fini la fin de mon histoire. Les populations humaines où on a beaucoup de gens qui digèrent le lait comme adultes, c'est des populations qui sont traditionnellement éleveurs. C'est des populations d'éleveurs, donc qui, depuis des milliers d'années, ont consommé du lait frais. En fait, la mutation qui permet de digérer, elle existait, et les populations qui se sont mises à boire du lait, dans ces populations-là, c'est une mutation qui a donné un avantage. C'est-à-dire le fait de pouvoir boire du lait en étant adulte a donné un avantage. Le pourquoi de l'avantage, on pourra revenir dessus, il y a plein d'hypothèses. En tous les cas, on le voit génétiquement parce qu'on voit cette mutation qui, partant de presque zéro, augmente au cours des millénaires dans les populations qui consomment beaucoup de lait frais. Donc, retour en Asie centrale, on a nos éleveurs nomades qui consomment plein de produits laitiers. On se dit, on va regarder ils ont cette mutation qui permet de digérer le lait. Alors là, on a monté des expéditions, je peux vous dire, c'est coton hein, comme expédition, parce que les gens, ils doivent arriver à jeun le matin, on mesure leur glycémie à jeun, on mesure l'hydrogène qu'ils ont dans leur respiration, on leur donne l'équivalent d'un litre de lait en lactose, et on mesure la glycémie, l'hydrogène, enfin c'est un gros protocole, et on est arrivé à montrer que, contrairement à ce qui était attendu, les éleveurs nomades, ils digéraient pas vraiment mieux le lait que les agriculteurs. Mais c'est donc un résultat négatif, mais particulièrement intéressant. Parce que du coup, comment ils font? Parce qu'ils consomment quand même énormément de produits laitiers. Et donc, on a émis deux pistes de travail autour de ça. La première, c'est qu'ils ont toujours consommé plutôt du lait fermenté. Parce qu'effectivement, c'est des endroits où on boit du lait de jument, ce qu'on appelle le koumis, qui a tendance à fermenter tout seul. Néanmoins, il reste pas mal de lactose dans le koumis. Donc, bref, hypothèse qui tient un petit peu la route, mais pas tant que ça. Et deuxième hypothèse, peut-être qu'eux, ils arriveraient à digérer le lait avec leur flore intestinale. Et donc, on a monté un projet pour aller étudier la flore intestinale, donc des populations éleveurs nomades. Là, on allait un peu plus à l'est, en Mongolie, et il y a eu le Covid.
Ah, donc, stop. Et vous ne l'avez pas repris?
Non, on ne l'a pas repris. Parce qu'entre-temps, on sait qu'il y a une autre équipe qui allait étudier ça. Donc, on attend de voir leurs résultats.
Donc, ça veut dire aussi que quand on fait des recherches culturelles, quand on prend par exemple comme sujet l'alimentation, on découvre des choses extraordinairement intéressantes du point de vue de l'évolution génétique des populations humaines.
Oui.
Et notamment, il y a d'autres exemples comme ça que le lait ?
Oui, il y a l'exemple, par exemple, les populations inuites du Grand Nord. Elles consomment une alimentation très riche en les mammifères marins. C'est une alimentation très riche en oméga 3. Voilà. Et donc, l'oméga 3, il faut le digérer. Et pour digérer l'oméga 3, eux, ils ont une mutation qui a été sélectionnée au fil du temps qui permet de digérer une alimentation très riche en oméga 3. Donc la même chose que pour le lait, mais cette fois-ci, je dirais, pour une forme de gras des mammifères marins.
Troisième sujet d'étude, Émilie Neyer, après donc les langues et l'alimentation, les systèmes de parenté. Vous aviez parlé du mariage hein, déjà tout à l'heure, mais là c'est plus comment les familles s'organisent, comment des communautés s'organisent en lignage, en clan, en tribu, et en quoi ce système d'organisation familiale et sociale a une influence là aussi sur notre diversité biologique.
Ah là, moi, c'est un des domaines
c'est
que
votre
je
dada.
Préfère. Ouais, c'est mon dada. Non, mais on est une espèce extraordinaire. On a plein de systèmes de parenté différents. L'anthropologie de la parenté, Lévi-Strauss, etc. Je veux dire, ils ont étudié ça pendant des années. On est une espèce où il y a plein de manières de faire famille et c'est complètement extraordinaire. Et du coup, c'est un paramètre culturel qui est fort et qui peut avoir un lien avec le génétique parce que c'est finalement qui se reproduit avec qui fait des enfants, qui bouge, qui migre, etc. Et donc, l'idée, ça a été... d'étudier ça et donc on a étudié ça beaucoup en Afrique centrale avec les populations de chasseurs-cueilleurs et leurs voisins et avec les données génétiques on a pu montrer qu'il y avait un sens des mariages, c'est plutôt les femmes que l'on dit pygmées qui se marient avec les hommes agriculteurs, ils font des enfants et après ça les enfants en général vont retourner avec leur maman vivre dans le groupe des populations pygmées et du coup ça entraîne des différences génétiques entre les populations qu'on dit pygmées et leurs voisins qu'on a révélées par la génétique. Parce que dans la génétique, il y a un truc génial, c'est que vous recevez la moitié de votre ADN de votre papa, la moitié de votre maman, mais il y a des petits bouts d'ADN qui échappent à cette règle-là. Vous avez des petits bouts d'ADN qui sont transmis que par les mères, qu'on appelle l'ADN mitochondrial, et vous avez des petits bouts d'ADN qui sont transmis que de père en fils, qui sont le chromosome Y. Et donc, en analysant ces systèmes d'ADN, on peut regarder l'histoire maternelle, l'histoire paternelle. Et donc, en analysant ça, d'ailleurs, des travaux auxquels on a contribué, ont montré que dans beaucoup de sociétés, ce sont les femmes qui bougent. Et du coup, pourquoi les femmes bougent ? Eh bien, c'est lié au mariage. Quand vous venez de deux villages différents, vous vous mariez, tout va bien, mais vous allez habiter où ? Eh ben, il y a des sociétés où le nouveau couple va habiter dans le village du père, enfin non, et donc c'est des sociétés on dit patrilocales, plutôt dans le village côté mère, c'est des sociétés matrilocales. Et vous avez des sociétés aussi néolocales, ils vont par. Nous, on est plutôt néolocaux en ce moment, mais en tous les cas, en France, au début du XXe siècle, on était dans des sociétés patrilocales. Quand une femme, elle épousait un conjoint, c'est elle qui allait dans le village de l'homme. Et du coup, ça fait que à des échelles locales, c'est les femmes qui bougent. Et à des échelles plus générales, on le retrouve parce que dans les endroits du monde où c'est patrie locale, c'est surtout les femmes qui ont bougé. Donc les systèmes de parenté jouent sur les migrations. Ils jouent aussi avec qui on va se marier. Est-ce qu'on se marie avec un cousin ou pas? Ou quand on est, par exemple, comme en Asie centrale, avec des systèmes de lignage et de clan, on va épouser quelqu'un à l'extérieur de son clan. Donc voilà,
tout ça marque génétiquement les populations.
Oui, tout ça, ça marque génétiquement.
Alors, à la fois, ça marque génétiquement les populations, et en même temps, ce qui est très important dans ce que vous dites et dans toutes vos recherches, c'est à quel point vous rappelez qu'on n'est pas que des gènes. Vous commencez à dire, voilà, on prend la moitié des gènes du père et la moitié des gènes de la mère. Sauf qu'on est aussi autre chose, et c'est tout cette autre chose que vous étudiez, vous. Tous ces à côté. L'environnement, les modes de vie, la façon d'être, en société, qui font que, autour de nous, et avec ce socle de ce bagage génétique au départ, ce socle dans lequel nous vivons va s'intégrer à notre bagage génétique pour ensuite être transmis à nos descendants. C'est ça.
Oui.
Donc on n'est pas que des gènes, c'est important de le rappeler quand même, parce que dans l'essor de la génétique, ça a été aussi, tout s'explique par les gènes.
Ah bah oui, mais alors moi c'est l'inverse. Voilà. En fait, c'est les gènes qui révèlent la culture. Donc j'utilise un peu, c'est comme j'utilisais une loupe pour regarder les sociétés humaines. Ma loupe, c'est la génétique, et en fait, ce que ça me révèle, c'est des éléments culturels. Et voilà, c'est de l'ADN pour révéler des éléments de la culture. Parce que l'intérêt de la génétique par rapport à juste une enquête ethnographique, c'est que on peut voir, par exemple, si un système de parenté a perduré ou pas. Parce que quand vous faites juste une enquête sur le terrain, les gens se souviennent en général une ou deux générations, mais pas beaucoup plus. Et puis aussi, on peut montrer que des choses que les ethnologues avaient tendance à penser purement construites, mais qui ne correspondaient pas vraiment à une réalité, mais que c'était juste une manière de se représenter le monde, correspondent à une réalité biologique. Par exemple, en Asie centrale, on a montré que quand les gens qui disent qu'ils appartiennent au même clan parce qu'ils ont un ancêtre commun par les pères, par voie paternelle, à une dizaine de générations, c'est pas juste du récit d'un mythe. Génétiquement, on retrouve cette parenté biologique. Donc, on montre que certaines des choses, je dirais, qu'on va pouvoir observer par une démarche ethnographique correspondent effectivement à quelque chose, je dirais, de biologique qui existe depuis un grand nombre d'années. C'est-à-dire, c'est pas juste un ancêtre mythique, quoi. Ça existe vraiment.
Qu'alliez-vous faire ensuite en Sibérie?
Ah, alors la Sibérie, on a étudié l'Asie centrale, et il se trouve que les populations d'Asie centrale viendraient peut-être de Sibérie. Et on se dit, mais on va aller vérifier ça. Et surtout, on va vérifier si ce qu'on avait trouvé de ce système de lignage, de clan en Asie centrale, est-ce qu'on le retrouve aussi en Sibérie, quoi. On se dit, bah oui, on fait de la science, donc on aime bien répéter quand on trouve quelque chose. Et du coup, on part en Sibérie, et là c'est drôle.
Là, vous aviez le vrai KGB.
Ah oui, on a passé des journées, une journée interrogée avec le gentil, le méchant, etc. On a senti qu'il fallait partir assez vite. Sinon, j'y serais peut-être encore, voilà.
Merci, Evelyne. On se retrouve demain, et on va s'interroger demain sur ce qui fait le propre de l'homme. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Florent Layani, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application de Radio France.